CO2 Mon Amour avec le WWF. Rejoignez la première organisation indépendante de protection de l'environnement au monde. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur wwf.fr.
Je suis amoureux fou. Je me suis rapproché de ma mère. Enfin, notre mère, à tous, la Terre.
CO2, mon amour.
Oui, je suis tombé amoureux fou de la nature. Et lorsqu'elle me manque la nuit, je me lève. Je vais à la campagne, je cherche un champ où la terre soit bien humide. Je m'allonge, j'ai des pensées érotiques. Et lorsque je suis en érection, je plante mon sexe directement dans la terre.
Denis Chesson.
Oui, mais il faut que la terre soit fraîchement labourée. Bien sûr. Ah oui. Si c'est l'hiver et que c'est gelé, là, c'est sûr, ça ne marche pas.
Ah bah oui, il y a toujours des conditions à l'écologie, hein, ça que Marc Jolivet donc le sait très très bien. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Ce sera le cas aujourd'hui avec à la technique Florent Layani et Léo Prangère et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Oh, je l'ai échappé belle, moi la plus vieille centrale de France. 1967, on décide que j'aurai une jolie vue sur le Rhin. Et en 78, allez hop, roule la grosse bouilloire mise en service. Bon, à cette époque-là, hein, c'est pour les plus jeunes, on roulait en R5. L'euro, internet, les coachs, les McDo, les éléments de langage n'existaient pas. Bref, c'était la préhistoire. Alors tout le monde connaît mon nom, hein, sans plan de com, sans attaché de presse, Fessenheim. Ah oui, ça sonne 100% Alsace, d'ailleurs si j'avais des tours, j'aurais même accueilli les cigognes. Mais elle me fuit, comme les écolos qui veulent ma peau, dans un pays techno-nucléo, là vraiment faut du courage, respect. D'accord, je suis un peu limite, mais on m'a refait plein de trucs, hein. Le radier, les pompes, la machine à café, j'ai du Botox et rustine neuf partout. Bon, j'ai un peu les pieds dans l'eau du Rhin, mais enfin, qui n'a pas ses petits défauts? Alors, mon arrêt, on l'a compris, sera conditionné à l'ouverture de Flamanville. Donc, je suis sauvé, parce qu'entre le dépassement des travaux et l'état de la cuve, je vous raconte pas. Je suis plus en forme que cette jeunesse, hein, qui n'est pas encore née. Vous ajoutez les présidentielles, trois financeurs, la CGT qui me dorlote, peinard, je peux dormir sur mes deux réacteurs. Et pour une fois, dans cette société, qu'on ne veut pas se débarrasser des cinquantenaires, mais qu'on veut les garder, ah bah faut voir le bon côté des choses. Alors, deux sujets, je vous l'ai dit, donc reportage à Craon sur le chemin des dames avec Noël Janteur. Et puis, on va poursuivre l'exercice de la semaine dernière, donc obligatoirement incomplet, en piochant dans les programmes environnementaux des principaux candidats. La semaine passée, c'était Dupont-Aignan, Le Pen et Hamon. Aujourd'hui, ce sera Macron, Mélenchon et Fillon. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Nous débutons par Emmanuel Macron. On va parler donc d'agriculture. Comme François Fillon, il veut que les agriculteurs pèsent plus dans les négociations face aux grandes surfaces. Il souhaite monter cet original un Grenelle de l'alimentation, instaurer un droit au chômage pour les agriculteurs, puis un droit à l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un droit à l'erreur, c'est faire en sorte que vous savez, les agriculteurs sont très contrôlés. À chaque contrôle, ils prennent une prune, ou presque, parce qu'il est difficile de s'y retrouver dans la réglementation. Et bien là, c'est instaurer un droit à la bonne foi, finalement. Voilà, j'ai fait une erreur, mais je suis de bonne foi, donc... Voilà.
Rémunérer aussi l'entretien des services écosystémiques, ça rentrerait dans le budget de la PAC.
Ça rentrerait dans le budget de la PAC à hauteur de 200 millions d'euros. C'est très concrètement, voilà, vous agriculteurs, on vous demande de conserver la haie qui vous embête, parce que la haie, elle épure notre air. Et bien donc, pour cela, pour ce service que vous nous rendez, vous êtes rémunéré.
Enfin, j'allais dire, séparer l'activité de la vente et des conseils aux agriculteurs en matière de pesticides.
Oui, il était temps, parce que souvent, les conseillers agricoles qui conseillent à peu près pour tout geste technique les agriculteurs sont aussi des salariés de boîtes qui vendent des produits phytosanitaires. Et bien là, on sépare strictement les deux activités et il était temps, c'est pas plus mal.
Augmenter le pouvoir des contrôles des SAFER.
Oui, les SAFER qui gèrent les ventes de terres et de biens agricoles. Là, aucune société, sous quelque forme qu'elle soit, ne pourrait passer outre l'obligation d'informer les SAFER de toute transaction. Ça aussi, c'est une avancée.
D'ici 2022, 50% de bio local avec un label de qualité. Nous passons à la transition énergétique. Ils souhaitent interdire les gaz de schiste et augmenter quand même fortement le prix de la tonne de CO2.
Oui, à 100 100 € la tonne en 2030, ce qui est quand même un peu le minimum pour donner un prix à la pollution, si vous voulez. Il veut doubler également la capacité de l'éolien et du solaire d'ici 2022 en simplifiant les procédures d'autorisation et en simplifiant... En fait, c'est pour éviter qu'il y ait des procès à répétition qui font qu'aujourd'hui, pour ériger une éolienne, il faut 10 ans.
Quid du nucléaire ?
Quid du nucléaire ? Eh bien, en gros, on attend que les centrales nucléaires meurent de leur belle mort. Pour Fessenheim, on ne la ferme pas, sauf dès lors que le père de Flamanville sera mis en route. Voilà. On n'est pas prêt de voir la fin de Fessenheim avec Emmanuel Macron.
Il souhaite aussi attendre le rapport définitif de l'ASN. Hein,
en 2018, pour savoir si l'on peut prolonger les centrales au-delà de 40 ans et lesquelles.
Afficher la durée de vie des appareils véritablement pour lutter contre l'obsolescence programmée, c'est aussi dans son programme. On s'intéresse maintenant à la mer avec un focus sur les métaux rares.
Oui, c'est une vieille lune. Hein. Moi, j'apprenais ça quand j'étais abonné à Science Avenir. Quand j'avais 13 ans, vous savez, les nodules polymétalliques, c'est des espèces de petits bouts de roche bourrés de métaux rares.
À 5-6 000 mètres de profondeur.
Voilà, personne ne sait comment aller les récupérer. C'est pas grave, voilà. Les nodules polymétalliques, ça fait partie de son programme mer qui est quand même assez fourni.
Perturbateurs endocriniens, là, tout le monde quand même s'y intéresse.
Hein. Voilà, grâce à Benoît Hamon, il faut bien le dire, on les interdit si tant est qu'il y ait une solution moins toxique que de remplacement.
La mobilité, Frédéric.
Oui, alors deux choses intéressantes. 2040, plus aucune vente de véhicules thermiques en France. Et puis développer ce qu'on appelle les routes numériques, les routes connectées. En gros, on met des capteurs partout de façon à ce que l'information et la gestion du trafic se fassent minute par minute, ce qui aboutirait par exemple à ce qu'entre 7h15 et 7h30, on a la voie de gauche qui soit dévolue aux covoitureurs. Voilà, c'est un axe de développement important dans le secteur de l'automobile.
Jean-Luc Mélenchon, à présent. Alors là, faut le dire, quand on a imprimé les programmes environnementaux de tous les candidats, il y en a à peu près les deux tiers de la pagination, c'était quand même sur Jean-Luc Mélenchon.
Oui, environnement, agriculture, ouais. Mobilité, territoire, c'est deux tiers à peu près de tout ce qu'on produit.
Parce que c'est aussi au cœur de son programme.
C'est au cœur de son programme, de la planification écologique.
Alors l'agriculture.
C'est une transition agroécologique sur 10 ans, donc c'est l'arrêt des fermes-usines, c'est la diminution de l'utilisation des intrants chimiques des engrais, c'est l'autosuffisance alimentaire dans les territoires et les départements d'outre-mer, c'est-à-dire qu'on prône les cultures vivrières plutôt, pour faire court, que la culture intensive de la banane. C'est aussi associé à agriculteurs et chercheurs, un peu comme François Fillon l'a fait. C'est le retour des quotas laitiers. C'est aussi et surtout, il va beaucoup plus loin pour aider la formation du prix, mettre en place un prix minimum payé aux producteurs et mettre en place, de fait, quand on lit bien, un prix maximum pour les hypermarchés, pour les grandes et moyennes surfaces.
Mise en place de réseaux de coopération de consommateurs, réseaux d'achat. Là.
Réseau d'achat de consommateurs pour favoriser les consommateurs qui ont le moins d'argent. Ça marche très très bien dans certaines banlieues. Ils veulent généraliser.
Je suis un ours, je suis un loup.
Eh bien, on peut le tirer. Non, il va jusqu'au bout de sa logique, Jean-Luc Mélenchon. Il veut contrôler, maîtriser les populations de loups et d'ours tout en aidant les éleveurs à vivre avec et notamment en les aidant à vivre de leur métier d'éleveur, en les aidant sur les prix. Une petite chose importante, il veut créer une surface maximale par actif agricole, notamment en céréaliculture, de façon à ne pas avoir d'échanges gigantesques qui ne seraient plus achetables en cas de succession par des groupes financiers.
Passons à la mobilité, donc les trains du quotidien comme Hamon et Macron, donc les remettre en mouvement. Une taxe kilométrique sur les poids lourds aux frontières.
Voilà, celle-là, on l'a... Bon, tous sont pour, une taxe au CO2, une taxe kilométrique poids lourd.
On va revoir des portiques, c'est ça. Quoi.
Voilà, on refera des portiques bien là sûr. Où on les a abattus.
Il ne veut plus de concurrence non plus sur le ferroviaire. Il souhaite remettre le fret ferré, donc là aussi en mouvement. Mais
voilà, en autorisant à nouveau ce qu'on appelle le wagon isolé, je ne m'étendrai pas, parce que jusqu'à présent, pour faire du fret ferré, il faut avoir des trains complets avec le même client. Là, voilà, le wagon isolé, c'est fondamental en fait, mais je ne m'étends pas. Et puis également, il veut promouvoir les centres de distribution logistique urbaine, faire en sorte qu'on puisse avoir donc des entrepôts ou des simili-entrepôts en ville. C'est la demande récurrente du monde du transport et de la logistique.
C'est-à-dire qu'en fait, on a nos centres logistiques qui vont être à 50-60 km.
Voilà, qui bouffent de la terre agricole, qui font qu'on transporte beaucoup en semi-remorque. Et donc là, ce serait avoir des hôtels logistiques, c'est-à-dire des appartements, c'est-à-dire des bouts de parking souterrains où on entreposerait des marchandises à partir desquelles on irait livrer les commerces en centre-ville.
Le vélo !
Ah, le vélo ! Oui, ça va vous plaire, Denis. C'est la grande promotion du vélo, notamment du vélo à assistance électrique, avec le développement d'itinéraires cyclables entre les villes et puis surtout faire en sorte que les vélos puissent être transportables dans les trains. Bon, c'est déjà un peu le cas, mais c'est pas ça.
Ce serait bien que ce soit davantage. Les routes nationales, de nouveau, gérées par l'État. l'État.
De nouveau géré par l'État, et l'argent qui est avant dépensé par les départements pour gérer ces routes, eh bien, les départements auraient l'obligation de l'investir dans des bornes de recharge en électricité ou en gaz naturel pour véhicules.
Et transport gratuit urbain pour les moins de 18 ans. L'énergie à présent.
L'énergie, bah lui, il est pour l'arrêt du nucléaire, hein, l'arrêt de Fessenheim, du Grand
Carénage. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans,
c'était l'inverse. Voilà. Donc l'arrêt de Fessenheim, du Grand Carénage, de Flamanville et de Bure. Mais comme souvent, il ne dit pas ce qu'il fera des déchets.
Voilà, on renationalise aussi.
On renationalise EDF et Engie, mais en les obligeant, ces deux entreprises, qui seraient donc d'État à nouveau, à décentraliser un maximum leurs services et leurs offres. Il va loin, hein, il encadre ça dans le cadre de sa planification écologique par un prix de l'énergie qui serait défini par le Parlement et non plus le marché, avec la mise en place d'une tarification progressive pour pénaliser le gâchis énergétique. C'est-à-dire, plus vous consommez trop, plus vous paierez beaucoup.
Sur les déchets.
Allonger la garantie légale des produits de façon à ce que les produits ne tombent pas en panne au bout de 6 mois, et puis développer les ateliers de réparation, ce qu'on appelle les ressourceries, et également généraliser le principe de la consigne comme il y a 60 ans.
Un focus sur l'eau, Frédéric.
Oui, il est le seul à en parler. La gratuité des compteurs, par la suppression des abonnements, gratuité des premiers mètres cubes, parce qu'il considère que l'eau, bah oui, est indispensable à la vie de chacun.
Nous passons à François Fillon avec d'abord l'agriculture, s'assurer face aux baisses des coûts et aussi face aux événements comme la grêle.
Oui, c'est un peu développé par d'autres candidats comme Mélenchon et Hamon. En fait, tout ça est inspiré de ce qui se passe aux États-Unis. Hein, c'est une forme de soutien au prix qui est interdite par la PAC, qui est autorisée aux États-Unis. Soutien au prix sous forme d'assurance abondée par l'État et que promeut François Fillon. Soutien au prix également en cas de calamité naturelle.
Et un chèque déjeuner pour soutenir la filière.
Un chèque déjeuner pour soutenir les filières issues des circuits courts, issues du bio, de l'agroécologie, donc ciblées sur une agriculture de qualité. Ça aussi, c'est inspiré de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est une proposition qui avait été faite par le Conseil économique, social et environnemental au mois de novembre.
Chez François Fillon, rendre aussi éligible au crédit impôt recherche la science mêlée à l'agriculture.
C'est ça. En fait, c'est acter le fait que de plus en plus les chercheurs, les associations et les agriculteurs travaillent pour l'élaboration de nouvelles façons de conduire les cultures et les élevages. Mélenchon en parle aussi. Voilà. Donc, c'est rendre éligible, effectivement, faire participer à la recherche directement les agriculteurs.
Alain Bougrain-Dubourg va nous faire une attaque parce qu'il veut renégocier la directive oiseaux.
Oui, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça suppose que, comme le nuage de Tchernobyl, les oiseaux s'arrêtent aux frontières parce que la directive oiseaux s'impose aux 28 pays de l'Union européenne. Hein, c'est pour que l'on gère convenablement les populations d'oiseaux migrateurs. Remettre en cause ça, c'est évidemment un casus belli pour les écolos, les naturalistes, et je ne suis même pas sûr que les chasseurs en aient vraiment besoin.
On parle maintenant de l'énergie. Il veut généraliser le chèque énergie qui remplacerait les tarifs sociaux.
Voilà, qui remplacerait purement et simplement les tarifs sociaux. De la même façon, il pousse comme d'autres candidats, mais avec une approche plus libérale, hein, ce qui n'est pas innocent chez François Fillon, enfin, ce qui est assez logique et cohérent, c'est-à-dire chaque individu doit pouvoir produire l'énergie qu'il consomme. Voilà, chaque individu doit aller vers l'autoproduction et l'autoconsommation.
Alors, intéressant aussi en matière de mobilité, il souhaite préserver le financement transport, alors que le MEDEF veut le remettre en cause.
Oui, c'est le versement transport, hein, c'est pris sur le budget des entreprises, et sans le versement transport, il n'y aurait pas de transport public. Nos auditeurs et nos auditrices ne le savent peut-être pas, le MEDEF est contre, sauf que François Fillon, qui a l'oreille des élus locaux, sait qu'il n'y aurait plus de bus, il n'y aurait plus de tramway sans ce versement transport, donc il le sacralise.
Alors là aussi, sur les perturbateurs endocriniens, c'est une priorité.
C'est une priorité, oui, ça ne mange pas de pain, hein, par les temps qui courent.
Principe de précaution, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Eh bien, il n'en veut plus, François Fillon. Lui veut inciter plutôt que punir. Il veut revoir le principe de précaution, mais vers quoi ? Ça n'est pas écrit, ça n'est jamais dit.
Merci beaucoup Frédéric Noël, l'exercice n'était pas facile.
Non, pas facile.
Et donc il est incomplet, on le sait.
Hein. Mais oui, on ne va pas faire des heureux forcément,
mais
on a fait ce qu'on a fait.
Voilà, merci beaucoup. Et dans quelques instants, on va changer d'air, on va aller dans le département de l'Aisne, on va aller sur le chemin des Dames du côté de Craonne. Auparavant, cette chanson.
CO2 Mon Amour sur France Inter. Yes.
C'était Foxygène. Vous êtes bien sur France Inter? Ben oui, vous le savez, on vous le dit tous que vous êtes bien sur France Inter. On change complètement de registre. On va dans le département de l'Aisne et je vois quoi? Le chemin des dames.
Ben, moi, je suis né à la ferme, à Crame, oui. Une des maisons de la ferme. Et puis papa, il est dans l'autre maison, juste à côté. Puis grand-père, lui, il est né dans le vieux village. Donc ça fait, oui, une douzaine de générations, 12-13 générations qu'on est paysans ici, puis on est ici.
Et qu'on est des hommes de la craie, quoi.
Oui, oui, si on peut dire, de la craie, du sable, de la terre, en tout cas. Ouais. Mon grand-père, lui, il était plutôt axé sur la forêt, sur le bois, sur... Mon père, c'est plutôt, oui, la terre, la chasse, les saisons, par exemple, il adorait tout ce qui était... des fruits bizarres, quoi, les châtaignes, les noix, les noisettes. Il était plus sensible à l'automne, quoi, aux fruits d'automne.
D'accord.
Et moi, je suis plus sensible aux fruits d'été, aux fruits de printemps. C'est le printemps, c'est le renouveau. Puis, je suis peut-être plus, un peu comme mon grand-père, plus près sentimentalement de ce que sentait mon grand-père aussi, et de la terre, des légumes, du travail à la main, d'être penché, quoi. D'être penché, d'être de la sentir.
Je vous propose de retrouver Noël Janteur, que j'avais rencontré en 2014 sur le plateau, sur le chemin des dames qui sépare la vallée de l'Aisne et de l'Ailette. La commémoration aura lieu la semaine prochaine. Vous entendrez évidemment beaucoup d'éléments de son, donc de craonne. Et donc ces dames, bah c'était en fait les filles de Louis XV qui empruntaient ce chemin pour se rendre au château de la Beauve. Mais l'histoire en fait retiendra le massacre des troupes françaises, particulièrement entre le 16 et le 25 avril 1917. Sous les ordres fous, entêtés de l'état-major français dirigé par Nivelle. Et c'était la mauvaise décision de trop. 100 000 soldats seront tués, blessés ou disparus pour un gain de terre absolument insignifiant. Aujourd'hui dans le vallon de Bonneval... Ça veut dire la Bonne Vallée. Ça a été un lieu d'assaut extrêmement violent. Vous avez le silence et la paix qui se sont installés. Alors c'est un vallon qui mousse de rayons avec plein de trous rouges sur le côté, plein de trous rouges dans la mémoire humaine, la nôtre, et sur les corps digérés par la terre. Eh bien Noël Janteur, qui est l'ancien maire de Craonne, on dit Crane hein, là-bas, 85 habitants, eh bien cet homme-là, il nourrit, il fait pousser de la vie. Alors il fait du bio comme une pommade douce, comme un baume sur la terre, qui a bu le sang des hommes, qui s'est nourri de fer, d'obus, de chair. Alors comment vivre, cultiver avec cela, avec cette histoire? Donc je vous propose un portrait sensible de cet homme et de ce bout du chemin des dames, raconté non par un historien mais par un agriculteur, à la croisée des paysages, de l'histoire et de l'écologie.
C'est comme si c'était mon gamin. Puis j'ai 4 fois sur mes genoux. Je crois bien que c'est la première engueulade que j'ai prise, c'est quand je l'ai essayé. Je ne devrais pas le dire. Ah, il avait quoi? T'avais quel âge, Titi? 10 ans, 11 ans. Et je l'ai laissé déchaumer à 10 ans avec un 4 roues motrices, mais où le 28, je sais pas. Et cover crop et tout, donc pourtant nous ici c'est en pente. Hein.
Ah d'accord.
Je l'ai laissé tout seul, bah, je savais qu'il allait se débrouiller. D'ailleurs pour débrouiller, il fallait qu'il se mette en bio, vous savez, il était trop petit. Puis pour traîner, il se mettait longtemps. J'ai dit, tiens Titi, j'ai fait confiance. Faut faire confiance aux jeunes de bonne heure.
Ouais.
Après ils prennent leurs responsabilités.
Et alors maintenant, donc, ils sont deux à faire du bio. Avec
ouais,
vous,
deux
ici.
Avec moi, oui, oui. Oui, c'est...
D'accord.
Alors je crois que c'est une passion, c'est des belles passions, des passions qu'on partage, quoi.
Ouais.
Faut pas que ça vienne un vice non plus. On reste ouvert sur les autres, on reste ouvert sur la société, on essaie de comprendre ceux qui ne comprennent pas le bio, quoi. C'est à nous à faire l'effort. Hein. On est la population la plus faible, en fin de compte.
Ouais,
là.
C'est ça.
Donc c'est à nous à faire l'effort d'expliquer, de comprendre, d'être patient, de prouver qu'on a quelque part, qu'on n'a pas tort. Je dis pas qu'on a raison. J'ai prouvé qu'on n'a pas tort de faire ça.
C'est ça.
C'est pas pareil.
Non.
C'est moins agressif. Faut toujours être dans la douceur, je crois. Par rapport à la population, par rapport aux autres, par rapport à nos confrères, quoi, qui sont pas encore,
convaincus. Oui,
convaincus, je sais pas d'ailleurs. Je sais pas s'ils sont, c'est que ça demande un effort quand même, hein, on prend des risques, hein.
Oui,
on prend des risques, hein. C'est...
J'ai un copain dans le bio, il me disait, tu vois, à chaque fois, à chaque saison, on fait tomber le portefeuille sur la table, hein, parce que c'est pas simple.
Voilà. On se met en cause tout le temps.
Ah ouais.
Moi, mon grand-père me disait, par un moment, au moment de l'accueil des haricots, des fraises, des asperges, il y avait entre 300 et 400 personnes qui travaillaient sur ce terroir-là, vous voyez. Maintenant, on est 4. voyez l'évolution de la vie en un siècle, quoi. Voilà, c'est à l'image du monde rural. Hein, donc c'est vrai qu'on a de moins en moins de, comment dire, notre place dans la société. Et de façon, sur le plan de la démographie, on ne représente plus rien, quoi.
Mais attendez, excusez-moi, parce que là, je vais tomber dans des chiffres, alors que c'est, au contraire, c'est de l'humain qu'il faut mettre en avant. Mais vous représentez, enfin, tout le monde agricole, c'est quand même 52% du territoire qui est géré, avec ce mot-là, qui est vraiment employé toutes les sauces, mais par le monde agricole, par les paysans, par les agriculteurs. C'est pas rien,
quoi. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est pas rien, mais si vous voulez, on a, avec l'évolution des sociétés et de la culture urbaine, et puis surtout les cultures qui se généralisent aussi, hein, qui ne respectent plus les différences, quoi, je dirais. Maintenant, c'est ça le drame de nos sociétés, c'est qu'on...
Ben, c'est l'uniformisation.
Voilà, l'uniformisation à outrance.
Et le mimétisme, comme d'habitude.
Voilà, voilà. Le problème, c'est que en fin de compte, c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on parlait de l'agriculture, entre la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture traditionnelle, enfin, ou même raisonnée, c'est que la valeur de la vie, c'est plus ça. Le progrès qui devait faciliter la relation entre les hommes, la relation avec la vie d'ailleurs, hein, comment dire, assumer jour après jour sa vie, je pense qu'on l'a complètement perturbé par la technologie. Mais ça veut dire peut-être que dans l'ensemble des sociétés, qui est une société de consommation où on trouve tout partout, vous voyez, bon ou pas bon, ça c'est autre chose, mais on trouve tout partout.
Et on crée de la frustration aussi.
En même temps, on crée beaucoup de frustration pour ceux qui ne peuvent pas y accéder déjà, et puis de la misère. Si vous voulez, on ne voit plus le lien qu'on a avec son sol. C'est-à-dire que combien. Moi, j'ai eu une fois l'expérience de jeunes filles, hein, qui avaient 16, 17 ans, des classes que je recevais, et lorsque j'avais des vaches à lait. Et donc, je les ai invités par petits groupes à venir traire avec moi. Et bon, j'étais bien équipé à l'époque, donc c'était relativement facile. Donc, je leur ai demandé de préparer, par exemple, la vache avant de traire, hein, nettoyer les pies, tirer les premiers jets. Enfin, vous connaissez, mais tout le monde connaît pas. Mais on avait un devoir de produire des bonnes qualités. Et je me souviens d'une jeune fille, je sais plus d'où elle venait, de la région parisienne, qui me dit, mais à 17, 18 ans, vous rendez compte? Elle me dit, ah, mais le lait est chaud.
Eh oui. Eh oui.
Vous rendez compte? Mais. Vous voyez, non mais
oui,
c'est, tout ça, c'est une philosophie de la vie qui fait que, eh bien, malheureusement, les écarts se creusent entre ceux qui ont encore cette connaissance-là ou ce lien-là ou cette chance-là et ceux qui ne l'ont plus parce que ce sont des victimes quelque part.
Parce que ce que nous disait Pierre Rabhi, c'est que on vit pas hors sol, quoi.
Voilà, on nous a fait croire, mais je sais pas, on a un certain âge. Moi, je me souviens dans les années 80, 75, 80, 85. On nous disait, vous verrez en l'an 2000, vous vous nourrirez avec des pilules, quoi.
Non, ça n'a jamais marché.
Ça n'a jamais marché. Et puis on est revenu à, aussi, heureusement, à un désir d'avoir des bons produits, d'avoir des produits sains, des produits qui ont du goût, des produits de saison. Et vous avez toute une frange de la société qui ne sont pas forcément les plus aisés, qui retrouvent cette forme d'harmonie-là par le goût, par l'assiette. Si vous voulez, il ne faut pas non plus... comment dire, refuser ce qui a existé. Que le balancier aille d'un côté ou aille de l'autre, il est dangereux de deux façons. Donc il faut ceux qui ont, que je pense moi en tout cas, hein, qui ont raison de revenir à une gestion saine et, comment dire, naturelle, ça veut rien dire, une gestion plus que raisonnée de la nature, il ne faut pas non plus qu'ils passent dans un excès aussi. Mm-hmm. Il y a un excès qui les rendrait agressifs ou qui les rendrait de façon... presque une idéologie extrémiste, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a...
L'ayatollah vert existe aussi. Hein.
Voilà, il faut pas qu'on fasse comme la chimie, par exemple. Voyez, le problème de cet excès de pollution des sols, de problèmes qu'on a actuellement à régler, vient du fait que du stade du laboratoire au stade d'utilisation à grande échelle, il n'y a pas eu d'intermédiaire pratiquement.
Non, c'est-à-dire que vos champs sont devenus une paillasse de laboratoire.
Voilà. C'est les champs qui sont devenus des laboratoires. Et ben, dans l'autre sens, il ne faut pas faire la même chose. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des sas comme ça, dans le temps et dans l'espace, qui fassent qu'on passe progressivement, on revienne progressivement. Non, qu'on ne revienne pas. Qu'on passe à une nouvelle façon de gérer notre sol, mais qui ne soit pas brutale. Parce que ça va être dramatique, parce que c'est l'homme qui va encore payer. Ouais. Tout ce qui se fait brutalement, c'est l'homme qui se paye. Paye. Donc il faudrait que ce soit qu'il y ait des gens raisonnables et raisonnés qui ne soient pas extrémistes, quoi. Voyez, les extrémistes sont mauvais dans tous les domaines.
Alors Noël Janteur, là on est chez vous. On est en train de vous parler effectivement de douceur avec pour expliquer les choses aux gens. Et on est quand même sur ce lieu en train de grimper sur le plateau de Craonne parce que on est donc chez vous avec donc ces merveilleux pommiers bio. Alors on a aussi des haricots, on a du maïs. Et en même temps, eh ben, c'est vrai que ce lieu quand même interpelle. On le sait, on sait qu'il y a eu des massacres absolument effroyables. Donc en avril 1917, on a eu 96 000 Français qui, en espace de 10 jours, ont été tués, blessés, massacrés. Aujourd'hui, c'est quoi ce plateau? Lorsque l'on est, comme vous, agriculteur, quand on est maraîcher, on a un peu ce souvenir. Comment on fait avec ça, sur ce plateau crieux?
Ben, là, vous mettez le doigt sur un sentiment qui est né chez moi lentement au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'une forme d'harmonie que j'ai eue avec ce territoire-là, ce terroir-là, on pourrait dire. C'est, en fin de compte, c'est un héritage qui est difficile à supporter ou qui est difficile à vivre, ou à garder en tout cas, ou à faire vivre plutôt, parce que c'est un dilemme dans cet héritage-là. Mmh. Autant il est triste, autant en même temps il vous amène des satisfactions. Donc on oscille tout le temps entre une forme de mélancolie. On est dans la mélancolie en permanence. Soit une mélancolie heureuse, soit une mélancolie triste. Mmh. En permanence, vous voyez. Par exemple, moi, si vous voulez, à chaque fois que je travaillais mes terres, je travaillais là-bas, parce que toute l'exploitation est dans le No Man's Land. Donc le No Man's Land, c'est l'endroit où, en fin de compte, c'est là où il y a le plus de corps, quoi. Ouais, où là, c'est le drame se passe dans le No Man's Land. C'est quand les soldats, les uns ou les autres, hein, d'un côté ou de l'autre, voulaient traverser le No Man's Land pour conquérir le terrain qui était en face d'eux, c'est là où ils recevaient le carnage des obus. Enfin, la douleur était là. Enfin, en fin de compte, le No Man's Land, c'est la douleur. Et mon exploitation, c'est du No Man's Land en permanence. En se promenant, vous allez voir, il y a encore certains endroits, peut-être d'obus partout, parce que moi, j'ai encore... mon grand-père a mis 20% de la ferme en état, après la guerre. Mon père, 20%. Et moi, j'ai peut-être un peu plus, 30-40%, parce que j'ai les moyens, le matériel un peu plus puissant. Mais il va y en rester pour les générations derrière. Quoi. D'accord. Derrière, les jeunes que vous avez vus tout à l'heure auront aussi leur part de remise en état, ou en tout cas d'atténuer les cicatrices de ce terrain-là encore, vous voyez. Donc c'est pas fini, c'est 4-5 générations pour revenir à un aspect visuel et puis agronomique à peu près normal. Par contre, sur la microbiologie, c'est pas du tout ça. Hein. Le sol a été complètement perturbé. Bon, ça c'est sur le plan agronomique. Il faudra longtemps pour le remettre en état. Là justement, on est en train d'arracher les pommes de terre.
Parce que quoi? Parce qu'on retrouve encore des obus,
c'est ça. Si vous voulez, il y a les conséquences directes de la guerre qui sont les obus, les tire-bouchons, les barbelés, enfin toutes ces choses-là.
Ce qu'on appelait les tire-bouchons.
Tire-bouchons, ce sont des piquets que les soldats vissaient dans la terre pour pas faire de bruit.
D'accord.
Donc il y a tout ça dans ce sol-là. Mais c'est pas encore le plus. Si pour les animaux, c'est important. Pour tout ce qui est agronomique, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en fin de compte, cette terre-là, au 19e siècle, c'était des maraîchers. Même tout avant la guerre, c'est aussi déjà
des terres vignes, de maraîchers.
Il y avait beaucoup de vignes, beaucoup de vignerons. Mais en fin de compte, les obus ont complètement perturbé les horizons, comme on appelle. Hein. Les horizons agricoles ont été complètement perturbés. C'est-à-dire que les obus ont remélangé, si vous voulez, la roche-mère en dessous, la craie en dessous, le cran, même on dit nous, avec les surfaces. Si bien qu'on a des terres, vous voyez, il y a des cailloux partout, alors que juste avant la guerre 14-18, la terre, c'était...
Il n'y avait pas ça.
Elle n'avait pas ça, ça du tout. Ils travaillaient à la main, ils bêchaient. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas du tout de corps étrangers, même pas, je dirais, des mauvaises herbes, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, d'ailleurs, sur ces territoires-là, en monde rural. Donc, vous voyez, donc, la guerre, elle nous a laissé comme héritage tout ce qu'elle ne veut pas digérer, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire les barbelés, les cartouches, les obus, les éclats d'obus, en fait, tout ça. Tiens, d'ailleurs, là, je vais vous montrer. On a sorti un gros crapouillou, là, d'ailleurs. Et puis, mais pour nous, agriculteurs, c'est pas ça qui est... C'est pas ça qui nous ennuie le plus. Ce qui nous perturbe le plus...
Ah oui, d'accord.
Ce qui nous perturbe le plus, c'est, en fin de compte, tous ces horizons agricoles-là qui ont été perturbés.
Ouais.
Vous voyez, il n'est pas explosé. Il a même pas été tiré, celui-là.
C'est un obus, on va dire.
Oui, c'est un crapouillot, c'est un mortier. C'est un mortier, oui. C'est un petit mortier, ça. Vous voyez, c'est avec les ailettes et tout. Vous voyez, on ressort plein de... Enfin, il y en a partout. Hein, encore
des zones. Qu'est-ce que vous en faites, là, après
ben, ça, là, pour l'instant, c'est un moment qui est là.
On met de côté, oui. Ça,
oui, pour l'instant, on les met de côté, puis on attend d'en avoir quelques-uns pour faire venir les artificiers, les mineurs.
Donc là, on marche, en fait, sur des cicatrices, quoi. On marche
ben, sur des... Oui, on va aller un petit peu, ouais. On va aller un petit peu plus loin, et puis vous allez voir... Donc là, par exemple, ce que je voulais dire, on est en train d'arracher les pommes de terre. Ouais. Il y a un endroit, on peut pas arracher avec les machines tellement il y a de pierres. L'année dernière, on a cassé la machine avec un gros éclat d'obus qui a coincé la chaîne et qui a tordu la chaîne. On a été obligé d'arrêter de travailler. On a mis une journée à réparer la machine. Il y avait un éclat d'obus comme ça, hein, de 40 cm. Il a cassé. Là, c'est les pierres. Et vous voyez, ces pierres-là, avant la guerre, ils n'étaient pas là. Encore, quand on tombe pas sur des tire-bouchons ou sur des piquets de fer ou sur des chevaux de frise, c'est bien. Vous savez, j'ai crevé avec le tracteur une paire de fois sur le... Oui. Les chevaux de frise. Alors ça, c'est une conséquence de la guerre qui va durer encore des siècles, parce qu'il n'y a plus personne pour ramasser les pierres.
C'était une boucherie effroyable, parce que donc le général Nivelle, on ne peut pas exactement dire que c'était un grand stratège sur cette affaire-là. On a récupéré, si on parle juste de avril 17, on a juste récupéré, mais rien en termes de terrain, quoi. Ça a été complètement fou. Donc il y a aussi un peu cette espèce de désespoir, quoi. On peut comprendre les mutineries qu'il y a pu y avoir après, parce qu'ils sentaient bien qu'ils allaient. Ils étaient de la chair à canon, comme on dit, quoi.
Si vous voulez, ça a été. L'année 1917, hein, c'est ce que les historiens et même les gens qui l'ont vécu ont baptisé cette, si on peut dire baptisé cette année-là, l'année d'angoisse, quoi. Ouais. Parce qu'en fin de compte, tout le monde était angoissé. On s'aperçoit que les soldats eux-mêmes ne croyaient pas vraiment à cette, parce que chaque régiment envoyait des patrouilles la nuit pour voir l'état de résistance des ennemis au niveau des lignes de défense, tout ça. Et vous avez presque tous les régiments qui ont participé à l'attaque du 16 avril. Les patrouilles, en revenant la nuit, parce que c'était la nuit, hein, qu'ils allaient observer, disaient, rien n'est détruit pratiquement. Les barbelés sont pratiquement pas détruits, les mitrailleuses allemandes sont en place. Donc finalement, le simple soldat dans la tranchée, et c'est là où ça pose un problème, quand même. Ouais.
C'est que le boulot, on va dire, de sape n'avait pas été fait.
Donc ça n'avait pas été fait. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que cette information-là, on a l'impression qu'elle est restée au niveau de la troupe même. Ouais. De celui qui était dans la tranchée, celui qui risquait sa peau. On a l'impression
qu'eux l'avaient intégré, mais l'état-major n'avait pas.
Voilà, c'était pas remonté. Quand vous lisez encore des textes de gens qui ont participé vraiment à l'attaque de cela, ils nous disent une heure, deux heures après le début de l'attaque, il fallait arrêter parce que c'était loupé, quoi.
Bien sûr.
Ils savaient que c'était loupé. Donc il y a eu un entêtement, et c'est ça le drame. C'est qu'il y a eu un entêtement à la fois des politiques et des militaires, pour continuer cette attaque qui était prévue depuis 6 mois. Quelque part, on comprend bien que on n'engage pas 6 mois d'énergie, d'argent, pour rien. Mais c'est là où on se pose encore la question entre le fait que une guerre coûte cher collectivement, mais est-ce que la vie ne coûte pas, n'a pas de valeur, quoi. En fin de compte, on s'aperçoit que le bilan, c'est que pour tous ceux qui décidaient à l'époque, la vie avait moins de valeur que la guerre, quoi, si vous voulez. Donc là, on se pose quand même des questions.
Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance de voir enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on va laisser nos peaux. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Toujours avec Noël Janteur, hein, donc qui nous parle de son métier. Puis vous l'avez compris, on a glissé doucement vers l'histoire, vers la nature, et évoque un peu plus loin la caverne du dragon, la ferme de Hurtebise, l'abbaye de Vauclair, et donc ce pays de la craie, Craonne, donc le cran. C'est un jésuite qui avait découvert d'ailleurs que ça relevait en fait de la guerre des Gaules. Vous avez un passage du livre de César, 57 avant Jésus-Christ, qui parle de Craodunum, donc la montagne de craie. Le pays de Craie, alors le village initial, il est à 600 mètres, hein, mais évidemment il a été rasé, donc à mi-pente du chemin des Dames. Et donc là, on va poursuivre cette balade avec cet homme donc tout à fait sensible. Alors rien, vous l'avez compris, de larmoyant hein, dans ce terrain qui est encore labouré donc par les obus, par des creux, par des bosses à lames, mais aussi des sourires comme une, j'allais dire, une douce mélancolie heureuse. Donc avec Noël Janteur, on remonte ce vallon de Bonneval. Il y avait une jolie nappe de soleil de fin d'après-midi et les mots sensibles de Noël Janteur qui nous raconte donc ce paysage. On grimpe doucement vers le plateau sur ce reportage réalisé par Christophe Imbert et Xavier Pestugia.
On est dans ce qu'on a appelé à l'époque les pièges à fantassins. Sur la face sud du chemin des Dames, du côté de l'Aisne, c'est pas la vallée principale qui crée le relief, ce sont les multitudes de petites vallées perpendiculaires à la fois à la rivière l'Aisne et à la fois au chemin des Dames, qui créent comme des goulets d'étranglement, vous voyez, comme des pièges.
Et on est dedans.
Voilà, on est dans un qu'on appelle malgré tout les Bonnes Valles, vous voyez. Ouais. Ce lieu-là, cette petite vallée-là s'appelle les Bonnes Valles. Et vous voyez, elle se termine en cul-de-sac, sauf qu'elle se termine sur une pente très très raide, ouais, avec des fortifications allemandes tout en haut. Donc les Allemands avaient fortifié, vous voyez, ces petites vallées-là, ouais, hein, ouais, étaient fortifiées, si bien que ça faisait comme une souricière lorsque les fantassins ont attaqué au 16 avril 1917, et même avant, hein. Eh bien, c'était impossible pour eux d'escalader les petites terrasses comme ça qui arrivaient sur les plateaux inférieurs.
Et pourtant, on les envoyait là, quoi.
Et pourtant, on les envoyait là. Et systématiquement, les gens se regroupaient dans les vallées. Et là, c'était le carnage parce qu'ils avaient les tirs de mitrailleuses, si vous voulez, de face et de côté. Oh là là. Donc, ils se trouvaient dans un croisillon de mitrailleuses qui, à dire de certains témoignages d'anciens combattants, certains combattants qui me disaient, mais tu sais, chez toi, il y avait des talus de morts parce que tout le monde tombait pratiquement à la même place. Il y avait des talus de mort à certains endroits. On me disait, quand on arrivait derrière des talus de mort, on se mettait à l'abri derrière les corps des copains. Et je crois que les mutineries, c'est l'échec, mais c'est aussi le fait que l'avenir était complètement bouché, complètement aussi encore plus dramatique, puisque quand vous affrontez des épreuves que vous ne connaissez pas, c'est votre instinct qui fait. Là, ils allaient de nouveau affronter des épreuves de l'hiver qu'ils connaissaient très bien. Quoi. Puisqu'en 16, ici, sur le chemin des Dames, certains ont essayé de se faire geler les pieds. Ils en avaient tellement marre, les jeunes. Alors là aussi, ça pose des problèmes. Parce que vous imaginez, à 20 ans, ils savaient, quand on se faisait geler les pieds, la conséquence, c'était on se faisait couper les pieds. Hein. Donc quand vous avez 20 ans et puis que vous allez jusqu'à l'audace, voilà, ouais, jusqu'au choix pour quitter le front, vous voyez pas la souffrance qu'on a dû leur faire subir pour arriver à cela. Vous imaginez, vous Oui. Moi, des fois, j'essaie d'imaginer, de dire, on va se faire geler les pieds.
Parce que ce sera toujours mieux que ce qu'on a vécu.
Toujours, voilà. Et on va
vivre.
Vous imaginez un peu. On peut pas imaginer. Non. D'ailleurs, même eux, moi, j'en ai rencontré un de Zouave. Il était au 7e Zouave, je crois. Et tous, d'ailleurs, hein, tous les anciens combattants. Il arrive un moment où la seule communication qu'ils ont avec nous et le seul langage qu'ils ont, ce sont les larmes. Ce sont les larmes. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus dire.
Alors ce lieu est quand même assez superbe. Hein. C'est vrai que cette fameuse petite souricière, c'est très joli, là, en temps de paix. Ça devait être complètement éclaté. Quoi. Il restait encore des arbres ici ou pas?
Non, voilà, c'était rien, lunaire. Hein, c'était... Là, vous voyez, on voyait un homme à 800 mètres, un kilomètre. Personne ne pouvait bouger sur un horizon d'un kilomètre, hein, parce que dès l'instant où l'un ou d'un côté ou de l'autre, hein, où ça bougeait, c'est le mec qui risquait sa peau à chaque fois, quoi.
Et là, on imagine des corps qui sont là-dessous.
Oui. Là, oui, parce que regardez, là, cet endroit-là, justement, c'est. Vous voyez, c'est encore des trous d'obus partout. La forme des trous d'obus qui sont à peine rebouchés, vous voyez. voyez, on peut redescendre là, vous allez voir, c'est joli. Là, vous voyez, bon, on fait du foin, on fait des prairies. Bon, c'est des prairies, hein. C'est la plupart de mon exploitation change. J'ai 35 hectares de prairies sur 90 hectares. Donc, vous voyez, mais ces 35 hectares de prairies-là sont pratiquement, pratiquement restés avec toutes les derniers obus tombés. Vous voyez, il y a des trous d'obus quand même assez marqués. Est-ce que c'est à moi effacer déjà ces traces-là ou c'est au plus jeune derrière moi? Vous voyez, c'est pas même pas un problème de capacité de faire. C'est vraiment presque sentimental pour moi.
Je comprends.
Moi, je ne sais pas si j'arriverai à aimer cet endroit-là. C'est un lieu magique ici. Hein. C'est un lieu. C'est beau, quoi. Vous voyez,
c'est beau.
On est c'est particulier, quoi.
C'est beau, c'est émouvant.
Vous avez les laines dans le fond là-bas. Vous avez la vallée de laine, vous voyez.
Là, vous ramassez une poignée de foin, hop, et puis vous la reniflez.
Là, c'est parce que vous voyez, le problème, c'est que on est tellement peu à travailler maintenant, c'est que ce foin-là devrait être pressé depuis 3 jours.
D'accord.
Et puis depuis 3 jours, on est dans les oignons, on est dans les carottes, on est dans les pommes de terre. Si bien que, bon, ben, c'est tout. Comme c'était pas du foin, vous voyez, en quantité, c'était la deuxième coupe. C'est, en fin de compte, ça, c'est ce que la nature nous a donné en plus de ce qu'on aurait dû avoir.
C'est le regain.
C'est le regain. Parfait. J'osais pas le dire. C'est le regain. Mais finalement, le regain, on le réussit pas. Faut pas trop dramatiser. Mais je l'ai pas foutu, hein. Oui, il est encore vert. Demain, je vais essayer demain de le presser, quoi. Ratisser et presser. Le parfum du foin. Dimanche soir, j'étais avec des gens dans la ferme, là, on discutait, et sur le coup de 6h30, 7h du soir, vous savez, quand l'humidité de la nuit arrive, elle lève les odeurs en même temps. On ne sentait pas du tout le foin dans l'après-midi, il faisait chaud, il faisait bon, mais on ne le sentait pas. Et d'un seul coup, en un quart d'heure, 20 minutes, la température a changé, le soleil s'est couché. La terre a recraché, quoi, l'humidité a et là, elle a lâché ses parfums de la journée. Et à la ferme, tiens, un petit peu, ça, on le sent déjà là. Vous voyez, l'humidité remonte.
Sûr,
on sentait rien, vous voyez, il y a un quart d'heure, on sentait rien.
Mais
vous voyez, 7h moins le quart, je disais autour de 7h.
Ouais,
à la ferme, on sentait comme je venais de faucher le foin. Et le parfum du foin descend de la ferme. Le gars me dit, mais qu'est-ce que ça sent bon aussi? Mais je dis, tu vois, c'est le foin, quoi. Vous voyez, même dans la journée, vous avez des périodes. Vous voyez comment on le sent maintenant,
on
ne le sentait pas tout à l'heure.
Non.
J'aurais pas pu le dire plus tôt, vous voyez, c'est...
Et là, on peut se poser la question, Noël. Vous êtes passé au bio, évidemment, par conviction. Mais peut-être que vous vous êtes dit inconsciemment, ce lieu-là a été tellement martyrisé que vous vouliez peut-être pas en rajouter.
Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, finalement. Vous savez, elle a tellement souffert, cette terre-là, que... Pour faire du bio maintenant, il faut avoir une certaine dose d'inconscience ou un excès de passion pour la terre. Voilà. Et puis peut-être en même temps un désintérêt pour l'argent.
Oui.
Voilà, je pense que c'est ça. Ce soir, on a les ombres, on a cette belle lumière-là, le soleil couchant, on a la beauté des arbres maintenant qui vont entrer dans l'automne. Ils commencent, vous voyez, ça commence. Parfois, vous avez les parfums, vous voyez, les parfums de l'acacia, de la fleur d'acacia. Parfum de l'aubépine au début. Les premiers parfums, c'est les parfums d'aubépine que vous avez. Et quand, lorsque vous vivez toutes vos saisons ici, vous avez une succession de satisfactions comme ça. Ouais. Par contre, vous avez des arbres qui meurent là. Mais je pense que certains, parce qu'ils sont sur des atmosphères terrestres, enfin de terre, encore marquées par les gaz.
Ouais.
Voyez. Et j'ai un vieux, moi ici, un vieux qui m'a dit à un certain endroit du terroir, il m'a dit, tu sais là, c'est pas la peine que tu plantes des pêchers, c'est pas la peine que tu plantes des abricotiers. Donc on a aussi cet héritage-là de prudence, quoi, que les vieux nous ont transmis.
Alors là, c'est un lieu aujourd'hui de silence. On a peine imaginé le fracas aussi qu'il y a dû y avoir. Bien sûr qu'il y avait des moments de calme, mais quand ça tirait, ça devait être monstrueux. Quoi.
Il y a un grand-père, enfin il était grand-père quand il m'a raconté, bien sûr, c'était un jeune soldat quand il était là, à ce moment-là. Il me disait, tu sais, le 16 avril, 16, 17, 18 avril, on a sorti des fois, il y a des gars qui ont été enterrés 3 fois vivants dans la journée.
Voilà.
Vous imaginez? Et mais comment un homme de 20 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, peu importe, même encore nous maintenant qui sommes plus trop jeunes, comment voulez-vous qu'on résiste? Comment voulez-vous qu'ils aient résisté à telle inquiétude, telle souffrance, quoi. Être enterré trois fois vivant. C'est les copains qui les sortent. Entendre les plaintes des copains. D'ailleurs, dans beaucoup de textes d'hommes
ça ressort beaucoup.
Je dis, mais la chose la plus horrible pendant la guerre, c'est d'entendre la plainte des hommes, quoi. Ouais. La plainte des hommes qui vont mourir, qui mettent des fois deux, trois jours à mourir. On s'imagine pas.
On marche sur des vagues.
Oui, exactement. Tiens, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai, ce que vous dites. C'est une succession de trous d'obus, vous voyez, qui complique le travail ici.
Ah bah oui.
C'est aussi un héritage, quoi. Ouais. Même s'il est triste, même s'il est violent, même. Je sais pas si.
Vous avez pas envie de niveler nivelles, quoi. C'est j'ose dire.
Oui, oui. J'aurais, disons, plus pour le dire plus exactement, j'aurais aimé ne pas avoir ce travail-là à faire.
Oui,
voilà, j'aurais dû ne pas avoir ce travail-là à faire. Mais voyez, là, par exemple, là, vous avez encore une multitude. Je suis sûr qu'il y a des corps encore un peu partout, là. Ah. Il y a 120 000 disparus sur le chemin des dames, quand même, hein. Ah. 120 000 disparus, c'est pas rien. De notre côté, hein. Vous savez, la Terre, elle a digéré tout ce qui était humain.
Oui.
Et ce qu'elle vous laisse, ce qu'elle nous laisse, c'est tout ce qu'elle ne veut pas, quoi, qu'elle peut pas digérer. Oui, ce sont des vieux fusils. Ce sont des vieux fusils, ce sont des tire-bouchons, ce sont des tous les corps étrangers, quoi. Tout ce qui est corps qu'on appelle corps étranger, c'est-à-dire que ce que la Terre ne veut pas. C'est ce qui représente la folie des hommes, quoi. Ici, c'est plus qu'une nécropole, si vous voulez. C'est plus que une nécropole, c'est matérialisé par certaines choses, vous voyez, par des croix, par des. Ici, c'est plus que ça. Il y a un mystère. C'est là, on serait surpris, peut-être, vous voyez, si par une forme de miracle ou les hommes se levaient là. Et des fois, j'imagine un peu des choses comme ça. Je me dis, mais on serait plus seul, quoi. On aurait des copains. Hein. Peut-être que on gagnerait une forme de sagesse qu'on n'a pas réussi à gagner après deux guerres mondiales, quoi. En fin de compte, c'est ça le drame. C'est cette chaîne de douleur là qu'on n'arrive pas à casser, quoi. C'est les mamans, c'est les papas, c'est les enfants, c'est les veuves. Ça a été toute une chaîne. C'est pas le bruit du canon qui est le plus terrible, en fin de compte. C'est ce que le canon a causé après, quoi. Vous voyez? C'est ça qui est terrible, quoi. Et c'est ça qu'on oublie. D'ailleurs, quand vous lisez José Maria Remarque, à l'Ouest, rien de nouveau, il se pose la question, il dit, mais on nous a... Alors, c'est un Allemand qui a fait la guerre, bon, et qui était, c'est un intellectuel qui avait fait des études, qui avait une connaissance, qui était intellectuellement très, très évolué. Et il se pose la question, justement, de cette culture-là des sociétés de l'époque. Se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos professeurs quand on va revenir, alors qu'on nous a appris le respect de l'autre, la vie, de construire les choses, d'être dans le positif? Et que là, on vient de passer 4 ans, 5 ans dans un négatif qui a pas de fond, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos professeurs qui nous ont appris à être positifs? Qu'est-ce qu'on va leur dire en revenant de cette expérience-là? Donc, si on s'était concentré un petit peu plus sur justement la réaction de ces hommes-là, comme moi, j'ai rencontré énormément d'anciens combattants qui n'allaient jamais au monument aux morts. Est-ce que dans tous les conflits, il n'y a pas une partie de la société qui a un bénéfice sur ces conflits-là, quoi?
Si.
Pas seulement les industriels, je dirais.
Non.
Pas seulement les industriels.
Psychologique.
Psychologique, voilà. Social. Disons, et c'est pour ça que quand on me parle de devoir par rapport à cette chose-là, moi, ça me révolte.
Ouais.
Je parle toujours de travail de mémoire, moi. Pas devoir de mémoire. Devoir de mémoire, pour moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. À la limite, les jeunes ont, je l'ai déjà dit, ça. À la limite, les jeunes ont un droit de savoir, voyez. Mais personne n'a un devoir de mémoire. Ouais. C'est compliqué de vivre quand on réfléchit. C'est beaucoup plus simple de ne pas réfléchir.
Alors là, Noël, on est gâtés parce qu'on est dans cet automne. Et c'est très beau. On a le soir qui est calme, là, on n'a pas de vent. C'est encore une petite douceur. Hein. Et là, on se retourne sur l'Aisne, sur la vallée de l'Aisne. De l'autre côté, on a l'An.
Ben c'est aussi pour moi une forme de récompense d'être revenu à la Terre, quoi.
Ouais.
Si vous voulez, on n'a pas de vacances, on n'a pas beaucoup de week-ends. Nous, ces mots-là, on les connaît pas trop. Mais par contre, on a des moments de bonheur comme ça, des moments de quiétude, quoi, des moments de. Mais c'est des moments qui, c'est des, enfin, ça, comment dire pour simplifier, ça n'a pas de dimension humaine. Ça touche vraiment l'émotion, ça touche. C'est un domaine, c'est un espace qui n'a pas de limite, quoi. Non. la beauté. C'est la beauté de la nature, c'est, ça n'a pas de limite, quoi. D'abord, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais ça vous envahit, quoi, quelque part. Et puis, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. En même temps, vous l'avez, puis vous ne l'avez pas. C'est ça qui est formidable. C'est que demain, ça sera différent, en plus. Demain, ça sera différent. Le soleil, il ne se couchera peut-être plus comme ça. On n'aura plus les mêmes ombres. On aura eu une journée peut-être plus difficile. Donc, on sera moins disposé. Donc, c'est ça qui est super, hein. Alors, vous allez me dire, c'est des réactions naïves, peut-être, mais... C'est plus le cœur que la raison qui parle.
Avec une petite semaine d'avance, donc commémoration, ça aura lieu la semaine prochaine avec Noël Janteur, on s'en doute bien, donc à Cran, à Craon, 15 et 16 février, dans ce coin qui est très beau, hein, de l'Aisne. Vous avez plein de coins délicieux dans ce département. Et donc aujourd'hui, la vie, on l'a compris, est là, mais chargée avec tout ce que l'on a entendu, avec tous ces mots de douceur et de profondeur de Noël Janteur, un homme qui a donc une belle âme. Et la semaine prochaine, nous, on fêtera le printemps. On sera ailleurs, on sera dans le Marais Vernier, en Normandie, entre autres, pour fêter l'arrivée du printemps. Alors, un grand merci à Christophe Imbert, donc à l'époque, pour sa réalisation, ainsi que, bien sûr, Xavier Pestugia. À Camille Blanès, notre assistante, à Florent Layani et Léo Prangère aujourd'hui à la technique, et à Muriel Pérez qui a choisi, elle a pu choisir qu'un disque là. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir demain, 19h54, on va essayer de faire lire vos petits loupiots. Voilà, après les petits bateaux, donc ce sera La Tulu, mon petit loup. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et si vous aimez les fleurs, le numéro de Terre Sauvage de ce mois-ci, donc consacré à la naissance, à l'histoire des fleurs, et puis je vous dis, la semaine dernière, il y a aussi un portrait de Jean-Marie Pelt. Dans quelques instants, ce sera la librairie francophone avec Emmanuel Kérad.